entre les principaux locataires orientales. J'ai réduit totalement ces questions.
Moi, c'est une démocratie au plus grand âge.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. C'est jeudi 1er décembre 2011, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies indique que les progrès accomplis jusqu'ici prouvent que nous pouvons réaliser notre objectif, à savoir zéro infection par le VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Objectif fixé jusqu'à l'horizon 2015. Le nombre de nouvelles infections par le VIH est tombé de plus de 20% depuis 1997 et il continue de diminuer dans la plupart des régions du monde. En Afrique subsaharienne, la région la plus affectée par l'épidémie du sida, l'incidence du VIH a diminué dans 22 pays, c'est selon le message du secrétaire général des Nations Unies. Que proposez-vous pour atteindre ces objectifs dans la lutte contre le sida? Parole aux auditeurs reçoit dans ce studio le professeur Yévin Capen, coordonnateur national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Marie-Chantal Lumba, Jocelyne Nanga, Clovis Louboula sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Claude Michala et Nicole Ngatala-Sperdi. Pierrot et la mairie devant ce micro pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité, dans parole aux auditeurs par internet en écrivant à ca@radiocapi.net.
Et pour les interventions directes, appelez-nous au 081-890-6315, 081-890-6315. Vous pouvez également réagir par SMS au 081-684, 081-684-7307. Et vous pouvez aussi nous envoyer votre point de vue par l'adresse électronique ca@radiocapi.net. Professeur Yévin Capen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu au studio pour partager ces sujets qui concernent la lutte contre le sida. Bien avant que nous puissions écouter les auditeurs et entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous voir d'une manière brève la situation du sida aujourd'hui en RDC?
Merci pour cette opportunité. Bonjour amis auditeurs. Il faut vous dire que la situation dans notre pays connaît une épidémie de type généralisé, plus ou moins stable, mais surtout marquée par des foyers épidémiques. Donc il y a des groupes de personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Il y en a d'autres dans des régions où la situation est plus ou moins acceptable. D'autres, par contre, la situation peut être vraiment alarmante.
Et si on peut le catégoriser, ça peut être les femmes enceintes, les jeunes, les enfants, comment...
Pour la plupart du temps, il s'agit de personnes vulnérables. Les personnes qui, bon, de par leur constitution physique, donc les femmes et les enfants, les femmes qui sont exposées à la mobilité, les femmes qui sont exposées à tout ce qu'on appelle les facteurs de risque, en fait, ces personnes vulnérables la plupart du temps ou qui ne sont pas protégées, n'est-ce pas, par la loi. C'est les personnes qui portent le plus lourd subi de l'infection VIH.
Et si on parle en termes de pourcentage, parce qu'il y a des termes, on parle de l'incidence, on parle des prévalences, est-ce qu'on peut avoir un pourcentage en termes, si on peut dire aujourd'hui à RDC, quel est le pourcentage aujourd'hui de que ce soit l'infection à VIH, sans peut-être parler de ceux qui développent déjà la maladie, qui sont sous traitement, si on peut parler juste de chiffres liminaires, oui.
C'est ça. Ça veut dire les enquêtes, selon les enquêtes qui sont faites, c'est les femmes enceintes, donc c'est qu'on a extrapolé sur l'ensemble de la population, le pays, c'est environ 3.4% de prévalence, avec évidemment des extrêmes, selon la nature, comme je disais, des personnes. Par exemple, les femmes portent le plus lourd début de l'infection par rapport aux hommes, tout comme les jeunes. Aussi sont plus exposés, ils ont plus comment dire, la prévalence est légèrement plus élevée chez les jeunes.
Mais quand on regarde la prévalence, vous avez parlé des femmes, c'est aussi le fait que ces femmes vont consulter. Mais quel dépister, qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ne vont pas se faire dépister, mais est-ce qu'on peut dire que la réalité peut être au-delà de ces chiffres qui font qu'il y a des gens qui se portent volontaires pour le dépistage?
Oui, effectivement, mais je pense que nous allons avoir plus de précisions parce qu'il y a une enquête qui est en cours de préparation, qui va s'appuyer sur la population en général. Nous aurons donc avec cette possibilité-là d'avoir des chiffres plus sûrs.
Voilà, on vous garde parce que nous allons écouter les auditeurs qui vont nous dire la situation dans leur milieu et aussi ce qu'ils pensent qui puisse être fait pour qu'on puisse parvenir à atteindre ces objectifs. Quelle est la part de leur responsabilité, quel est leur niveau de contribution dans cette lutte contre le VIH. Nous avons Charles qui nous appelle d'Ecologie. Marc est ici à Kinshasa. Nous allons vous donner la parole, tout comme Kalou qui nous appelle de Bounia en province orientale.
Parole aux auditeurs.
Charles, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Colusie, dans la province du Katanga. Bien avant que vous puissiez peut-être donner vos propositions dans la lutte contre le sida, mais dites-nous d'abord à Colusie, qu'est-ce qui se fait sur terrain dans la lutte contre le sida? Ce que vous remarquez dans la ville de Colusie, ce qui se fait régulièrement? Marc, je crois que vous êtes en ligne, oui.
Ce que nous remarquons, c'est que moi je remarque ici, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut d'abord amener des médicaments et puis sanctionner aussi d'autres médecins qui ne donnent pas de médicaments, comme je sais de la peine de mort, qui ne donnent pas de médicaments, qui fait parce que aussi, c'est le mois dans la commune de Bille, en assaisonnement à Lille, il y a beaucoup de gens qui se marient même, à 10 à 15 ans, avant, là, et tout. Et puis, deuxièmement, il y a des cas aussi de sida, c'est un phénomène qui est absolument ça. Vous voyez comme c'est un sujet à présage, où les gens sont de présage artisanal, c'est un peu catastrophique.
Oui, on a des petits soucis avec votre ligne qui n'est pas très claire, mais on a déjà suivi quand même Charles. Vous souhaitez qu'on puisse, que les médicaments puissent être disponibles pour traiter ceux qui sont déjà malades, mais vous dites aussi qu'il y a un facteur pour vous qui favorise la contamination. Vous parlez de mariage précoce, sans examen, c'est ce qui s'est passé à Colésie. Merci beaucoup, Charles. Malheureusement, la ligne n'a pas été très claire. Nous revenons ici à Kinshasa avec Marc. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Mmh. Et la ville de Kinshasa, c'est la capitale. Pensez-vous qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans la lutte contre le VIH?
Pour moi, jusque-là, il n'y a pas assez d'efforts fournis, puisque dans le cadre de mon travail, comme je suis un étudiant en médecine, j'ai essayé de mener une recherche dans ce sens. J'ai trouvé que beaucoup de gens n'ont pas l'accès à l'information sur le VIH. Et beaucoup de femmes, surtout les femmes qui restent à la maison, n'ont pas l'information par rapport au VIH. Mmh. Elles sont négligées, elles sont abandonnées à leur sort. Et elles sont faciles, elles sont facilement contaminables. C'est un peu ça la situation dans les quartiers. J'ai essayé d'étudier, j'ai trouvé que 80% des femmes n'étaient pas informées comment se transmet le VIH-Sida, comment l'éviter et même comment, quel comportement avoir pour éviter toute contamination.
Mmh. Mais parlant de cette étude, Marc, alors dans votre travail, qu'est-ce que vous proposez? Parce que 80% des femmes, selon le quartier là où vous avez mené votre enquête, c'est quand même beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez dans votre travail pour parvenir à faire impliquer beaucoup de ces femmes dans la lutte et puis aussi avoir cette information dans la lutte contre le sida?
Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est très simple. Premièrement, nous devons réaliser une sensibilisation parcelle par parcelle, maison par maison. Mmh. Amener ces femmes qui restent chez elles, qui n'ont pas de radio, qui n'ont pas de télévision, à avoir le message, à comprendre c'est quoi le VIH et c'est comment se transmet-il. En deuxième position, il y a ces femmes-là qui partent au marché. Donc il faut aussi réaliser les sensibilisations dans les marchés, dans les églises et dans d'autres endroits comme les écoles, les universités, les entreprises et même des mines. En troisième position, réaliser une bonne prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Oui. C'est dans ce sens-là que notre ONG des Tam Tam des Sages travaille pour sensibiliser les femmes, les enfants et toutes les couches de la population afin d'arriver à lutter contre cette pandémie de siècle. Notre ONG travaille pratiquement en Mbujimayi, dans les deux Kasaï, dans les régions minières, comme les gens qui sont dans les mines, sont beaucoup plus personnes sont beaucoup plus, oui, mm-hmm. sont beaucoup plus exposées, mm-hmm. et même d'autres personnes qui sont en ville. Mm-hmm. Donc, nous sommes en train de mener ces démarches, mais les financements nous posent souvent problème.
Voilà.
Et mm-hmm. comme les volontaires de PNMLS, et là, ils peuvent aussi nous venir au secours afin que nous puissions sensibiliser avec des mégaphones, avec des, tout ce qu'ils peuvent pas dessiner, tout ce qu'ils peuvent nous donner afin que nous puissions aider ces gens à ne pas mourir.
Merci
et avec
beaucoup.
Cela, j'estime que nous allons atteindre ces objectifs à l'horizon 2015.
Merci Marc de Kinshasa. Vous êtes étudiant en médecine, vous travaillez d'ailleurs sur le sujet. Donc vous avez beaucoup insisté sur la sensibilisation pour vous, elle est vraiment importante. Vous souhaitez même avoir le moyen, un appui pour faire ce travail. Vous le faites à Kinshasa, vous le faites dans les décassages, dans les zones minières. Merci beaucoup de ce point de vue, avec beaucoup de sensibilisation et aussi une bonne prise en charge. Et c'est qu'avec le VIH, on peut parvenir à atteindre les objectifs ici à l'horizon 2015. Merci beaucoup. Nous allons à Bouni, en province orientale. Kalou, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Mm-hmm. Et avant peut-être que vous puissiez proposer, on va procéder comme on a fait avec Marc. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme constat à Bounia par rapport à la lutte contre le sida?
À vous laisser, finalement, je ne suis pas critiqué à
On a des petits soucis hein, avec les lignes aujourd'hui. Kalou, on a beaucoup de difficultés, vous sortez trop. Très difficilement, on ne sait pas si on va vous suivre. Malheureusement, là, on a fini par vous perdre. Nous allons revenir ici à Kinshasa. Mangoyo, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, monsieur, j'ai des cachements.
C'est Pierrot et la Mégie qui a remplacé Jody par parole aux
auditeurs. Ah, ok.
Oui, nous parlons du constat. Vous avez suivi Marc de Kinshasa qui a dit, pour lui, après l'étude qu'il a menée, beaucoup de femmes ne sont pas sensibilisées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions nous engager assez dans la lutte contre le VIH-SIDA et pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés d'ici l'horizon 2016? Mangoyo, vous êtes en ligne? Voilà, là encore, la ligne téléphonique nous pose problème. On revient à vous, professeur Lévin Capel. Vous avez suivi notre auditeur de Kinshasa, celui d'écologie aussi. Et je crois que les interventions sont d'abord au niveau de la sensibilisation. Est-ce que les efforts qui sont fournis, que ce soit au niveau du PNMLS et d'autres partenaires, est-ce qu'il y a les efforts sont assez d'abord dans la sensibilisation sur la lutte contre le VIH-SIDA?
Oui, en tout cas, je dois dire à... Merci et plutôt féliciter, encourager nos amis par le fait qu'ils ont le souci de la sensibilisation, parce que nous savons que la sensibilisation c'est une grande stratégie mm-hmm. En matière de lutte contre le VIH-SIDA. Les efforts effectivement sont fournis, mais évidemment il faut les moyens, comme soulignait notre ami Marc, mm-hmm. Il faut les moyens, les outils ont déjà été produits. Peut-être à un niveau qui n'arrive pas à le joindre lui spécialement, mm-hmm. mais nous pensons qu'étant donné qu'il a cette volonté de vouloir contribuer à la lutte contre le sida, mm-hmm. il peut faire la démarche vers nous, il pourra avoir les outils dont il a besoin.
Mm-hmm.
Mais quant au financement, bon là, je pense qu'une ONG a comme vocation de pouvoir prendre une partie de la charge de l'État, donc nous comptons sur la contribution de tout le monde pour arriver à réussir les opérations.
Et puis il y a aussi ce volet prise en charge de personnes. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes sont concernées par la prise en charge aujourd'hui, combien ont accès par exemple aux anti-respos viraux? Est-ce qu'on a on peut avoir une idée sur ça?
C'est ça, il faut dire effectivement qu'actuellement la couverture est relativement faible par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Mmh. Et cette faiblesse est aussi accentuée par le nouveau protocole international qui voudrait que les critères d'éligibilité ont changé et de ce fait donc le besoin ont sensiblement augmenté.
Mm-hmm.
Et les prévisions n'avaient pas, comment dirais-je, pensé qu'on allait arriver à ce niveau-là. Mais sinon, là où les médicaments sont disponibles, ils peuvent y accéder facilement.
Mm-hmm.
Je pense que ce qu'il faut, c'est que les personnes qui sont concernées se dépasse, n'est-ce pas, pour sortir de la clandestinité. Il n'y a que de cette façon qu'à mon sens qu'ils peuvent bénéficier de meilleures finances.
Nous avons vu de Lubumbashi qui dit ceci, il est sur la route de Kasenga. Pour moi, il faut améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles qui sont atteintes pour ces personnes qui sont saines, tout ce que je leur recommande, c'est la crainte des dieux. Il y a aussi un auditeur qui nous pose la question, qui reste de savoir pour lui quels sont les premiers signes pour se rendre compte qu'on a été en contact du virus du VIH. Pour lui, il voudrait savoir, professeur, dès que quelqu'un est en contact avec le virus, quels sont les premiers signes qui peuvent déjà se manifester sur lui?
Bien, je pense que aujourd'hui, à vouloir attendre avoir les premiers signes de l'infection VIH, en fait, c'est s'exposer à moins de chances, n'est-ce pas, d'améliorer sa vie. Hein? Ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller plus tôt, hein, même quand on a l'impression d'être en bonne santé, hein, de pouvoir se faire dépister. Hein? Cette prévention a plusieurs avantages. D'abord, ça traduit le sérieux, n'est-ce pas, de la personne, donc la capacité de se prendre en charge de soi-même. Et puis, le fait d'être dépisté tôt, hein, on a la possibilité d'être pris en charge plus tôt, n'est-ce pas, permettant une vie meilleure. Hein. Si vous voulez, les signes que l'on voit, les premiers signes, ça peut être des chatouillements, ça peut être une fièvre qui passe, hein, mais généralement, à ce moment-là, il faut que le médecin lui-même puisse faire le diagnostic, et il s'appuie essentiellement sur le dépistage. Mm-hmm. Et donc, ce que nous pouvons conseiller à notre compatriote, c'est plutôt ne pas attendre d'avoir ces signes, mais plutôt aller vers le dépistage.
Voilà. Moukoubi, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Papa Pierre et Marie Chantal, sans oublier notre invité.
Mm-hmm. Ok, nous allons revenir à vous, le temps de prendre d'abord Steve qui est en banc Dakar. On va revenir à vous. Steve, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Mm-hmm. On vous écoute. Nous parlons de pistes et solutions que nous dégageons dans cette émission pour parvenir à ces objectifs des zéro infection à VIH, zéro décès, tout cela, des zéro discrimination. Pour y arriver, Steve, qu'est-ce que vous vous proposez?
Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je suis en train de voir que l'objectif du millénaire de 2015 sur la question du phénomène de sida sur la planète sont montrés dans certains points du monde, mais on est dessus, c'est une utopie. Hein. C'est une utopie parce que c'est trop de désirs au niveau du gouvernement qui ne sont pas encore mis en place pour arriver à cette détermination. Je vais un peu aller plus loin. Vous savez que l'engagement du gouvernement, bien que les ONG internationales puissent faire quelque chose de bien, mais quand le gouvernement ne se sent pas impliqué sur un point, ça sera toujours difficile sur son applicabilité. Il faut se poser la question sur le budget de l'État que la République démocratique du Congo a consacré pour la santé dans son budget de 2010. Par rapport à 2015, cette durée est encore futile. Je pense que le gouvernement de la République devrait d'abord se poser toutes ces questions-là. S'il maintient ses postes de dossier, ce n'est pas pour un tout simple temps, c'est laisser les règles dans ce sens-là. Mais parce qu'il s'attend des objectifs qui sont clairs pour arriver à réduire non seulement le taux de cette incidence sur la vie planétaire, mais sur la vie aussi des Congolais, que les Congolais aussi sont concernés. Mais malheureusement, nous trouvons que le gouvernement s'est toujours méfiant sur certains objectifs et c'est ce qui est grandement mal. Je pense que le gouvernement pourra se ressaisir et que c'est là où on pourra aller au-delà de ce sens-là.
Steve, je vous garde, vous pensez qu'il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse avoir d'abord la politique définie clairement dans la lutte contre les sida, mais vous insistez sur le fait qu'on ait un budget conséquent qui peut permettre d'atteindre ces objectifs. Mais revenons d'abord, avant même qu'on ait ce budget colossal qui va permettre à la santé de pouvoir se développer, mais quel est le degré de responsabilité de la population de Bandakal, où vous êtes, là où vous êtes dans votre communauté, pour parvenir à aider tant mieux que mal à la tête de ces objectifs, vous, en tant que population concernée par la question du sida, c'est vous?
Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous savez que la personne qui vous parle d'abord fait partie de la faculté de médecine et je suis étudiant dans cette faculté. Je sais un peu plus naturellement. Vous savez que la sensibilisation de la population sur un certain sujet en matière de la santé, autre chose. Il faut se poser la question, est-ce que cette population est fortement sensibilisée? Si ce n'était pas la vie de la communauté, elle va à travers ces différents indices. Est-ce que cette population devrait être réellement sensibilisée sur les phénomènes climatiques?
qu'est-ce que les bons pour la bien sûr, que ce point, je voudrais remettre cette question, en sachant que c'est une incidence grave pour la population. Je me pose avec toutes ces questions, vous trouvez que d'abord, j'ai un problème de sensibilisation. Les gens ne comprennent pas. J'ai fait une auditeur avant moi là-bas, qui a posé la question de savoir comment la personne saura qu'elle est infectée ou soit individuelle. Ça, ce sont des questions vraiment aléatoires. Et que les gens qui se battent pour 2015 avec des victimes et des pas pour ces questions-là. C'est un problème du manque de conciliation et du manque d'expérience en matière de santé pour le gouvernement. Je pense que cette dimension ne pourra pas se maintenir, c'est l'objectif.
Merci, Thierry. Mais malheureusement, vous avez pu charger le gouvernement. Vous n'avez pas voulu, vous, en tant qu'étudiant en médecine, quelle est votre de responsabilité dans la sensibilisation. Donc, vous souhaitez quand même que le gouvernement puisse avoir un budget conséquent pour soutenir le secteur de la santé. Merci beaucoup, Steve de Mandaka. Nous allons revenir ici à Kinshasa. Cette fois, Mangoyo, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
On a eu des petits soucis avec vous. Vous avez suivi Steve. Pensez-vous vraiment que la grande responsabilité doit être chargée sur l'État ou bien nous tous, vous et moi, parce que nous sommes concernés par cette question du système. Nous avons aussi une part de responsabilité dans la lutte.
Oui, tout le monde a une part de responsabilité dans la lutte, mais le gouvernement porte la plus grande responsabilité à 90%. Mmh. Alors, il y a, au niveau, en ce qui concerne, au niveau de Kinshasa, bon, en ce qui concerne la sensibilisation, je crois que de ce côté-là, nous voyons quand même les résultats. Alors là, on demande, moi je demanderai aux ONG, aux bailleurs de fonds, de pouvoir chaque fois faire le suivi de toutes ces actions-là de sensibilisation, parce que c'est eux qui financent. Et au niveau, disons, sur le plan, au niveau des étudiants, dans les milieux étudiants, tout ça, je crois qu'il faut continuer à sensibiliser. Mais il y a aussi le facteur social. Vous savez, une population appauvrie, souvent, on n'est pas à l'abri de ce genre de pandémie. Alors, pour, en ce qui concerne l'État, moi, je pense que, en ce qui concerne les produits, par exemple, les produits des ARV, comme ça qu'on les appelle, eh bien, il faut que l'État mette sur pied une politique. Nous avons, par exemple, une usine qu'on appelle Pharmakina. Est-ce que Pharmakina n'est pas en mesure de fabriquer des produits génériques? Parce que souvent, les personnes déjà infectées, ils ont difficile à avoir ces produits-là. Souvent, c'est ça le problème. Est-ce que Pharmakina, l'État, est-ce qu'il ne peut pas subventionner Pharmakina pour que
l'application
des génériques?
Voilà,
là aussi, c'est un problème, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Mangoyo de Kinshasa. Vous pensez qu'il faut accentuer la sensibilisation, bien sûr, mais qu'il y ait aussi un suivi de ce qui se fait sur le terrain. Mais vous souhaitez que Pharmacina puisse être doté des capacités de moyens de pouvoir fabriquer les ARV pour permettre à ce que ce soit accessible à tout le monde. Nous allons à Lubumbashi. Juvenal, vous êtes en ligne, bonjour.
Juvenal, bonjour.
Oui, vous êtes, vous cherchez d'ailleurs un budget pour tourner un film de sensibilisation sur le VIH/SIDA, mais dis-moi, vous pensez que les séropositifs ne sont pas assez contrôlés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, en fait, c'est un point avec le comportement de certains séropositifs que je qualifierais peut-être, d'inconscient, quoi.
Mm-hmm.
En fait, ils s'adorent à n'importe quoi, ils vagabondent ça et là. Bon, alors, en rapport avec ça, moi, je dirais par contre que la réaction de la population qui a tendance à vouloir rejeter les séropositifs, en fait, comme les ONG ont toujours justifié cet aspect des choses, disant que en fait, ce sont des gens qui ont droit à l'intégration dans la société, il ne faut pas les marginaliser. Mais la reste, quelque part, on aura tendance à penser que peut-être la question de la population est quelque peu légitime. Pourquoi? Parce que le sida en soi jusque-là, tout le monde sait qu'en fait, on n'a pas encore trouvé un remède miracle pour soigner les gens. Alors, moi je crois que on aura beau dire, en fait, ces gens-là, vous pouvez manger avec eux, boire avec eux, tout ça, mais en rapport avec la sécurité individuelle liée à la personne elle-même, vous n'allez pas lui reprocher si il,
il rallonge cette part de manœuvre de sécurité beaucoup plus loin.
Mais Juvenal, bon, en fait, votre souci, c'est que vous sentez qu'il y a, les séropositifs ne sont pas assez encadrés, ce qui fait qu'ils ont un comportement des fois peu responsable. Mais où est-ce que travaillez-vous dans une structure qui permet quand même de pouvoir sensibiliser, comme vous êtes en train de tourner un documentaire sur ça?
Non, disons, je ne suis dans aucune structure.
Mm-hmm.
En fait, je suis quand même un personnel médical, je suis ingénieur.
Oui.
Alors, je m'attends quelquefois à écrire des scénarios. Alors, dernièrement, j'ai écrit un scénario là-dessus.
Ah, voilà. Ok. Vous souhaitez qu'il y ait assez d'encadrement pour les séropositifs, afin qu'ils aient un comportement responsable. Merci beaucoup. Nous allons regarder Junior de Lubumbashi en ligne et Jacques qui est à Matadi. Nous allons revenir à vous, messieurs, le temps que notre invité puisse réagir à ces quelques commentaires des auditeurs. Nous allons revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Professeur, vous avez suivi les auditeurs. Notre ami de Mandaka s'inquiète parce qu'il sait que le budget tel qu'actuellement on l'alloue au secteur de la santé ne peut pas permettre à ce qu'on puisse fournir beaucoup d'efforts dans la lutte contre le sida et surtout atteindre ces objectifs. Mais il y en a aussi qui pensent qu'au-delà de l'État, il faut l'engagement de tout le monde, mais il faut aussi un suivi sur le terrain. Comment pouvez-vous réagir face à ce point de vue différent de ce deuxième groupe d'auditeurs?
Oui, je pense que l'engagement doit comporter à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas seulement le gouvernement, la société civile, même au niveau de la communauté. Tout le monde doit être engagé par rapport à la lutte contre le VIH-SIDA. Ce qui est peut-être, qu'on peut déjà annoncer, c'est que il a été admis au niveau du Parlement qu'on puisse admettre un budget de lutte contre le VIH-SIDA. Donc, je pense que au retour des parlementaires, on sera peut-être invité à aller discuter de ce budget au niveau des niveaux du pays.
Mm-hmm.
Donc, je crois que l'engagement est déjà là. Donc, à partir du moment où les autorités du pays ont accepté d'ajuster cette ligne qui n'existait pas avant, on a écrit un document qui s'appelle DCRP, n'est-ce pas, document pour la réduction de la pauvreté, c'est ça. Et là-dedans, le VIH, le SIDA reste encore une priorité pour essayer d'aller vers les objectifs du millénaire.
Mmh.
Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la société civile dans notre pays ne joue pas son rôle. Face à tout, tout ce que nous avons comme problème, on ne sent pas sa quote-part. Nous avons pour l'instant des sociétés civiles qui sont là pour être des ONG. Les ONG, ça veut dire qu'ils attendent des financements.
Mmh.
À partir du moment où il n'y a plus de financement, l'ONG s'arrête et donc la société civile arrête de fonctionner. Je ne crois pas. L'ONG, c'est d'abord une structure qui amène sa quote-part dans la vie nationale. Et donc, je crois qu'il y a un volet qu'il faut absolument relever là-dessus. Notre étudiant, je suppose qu'il est à l'université et en tant qu'étudiant en médecine, il va avoir le cours sur le sida. Qu'est-ce qu'il en fait? Il devrait, à mon sens, utiliser ce cours qu'il a reçu au niveau de la faculté pour pouvoir répondre. L'université a aussi comme rôle, n'est-ce pas, de répondre aux problèmes de la société.
Mm-hmm.
Alors, notre étudiant qui va avoir un bagage, je suppose qu'il n'est pas là pour le diplôme, mais c'est plutôt pour avoir un bagage qui doit lui permettre de lutter contre le sida.
Mm-hmm.
Donc, considéré comme sérieux, je ne crois pas. Nous sommes heureux de constater qu'il a pris conscience de la situation. Et donc, partant de là, nous pouvons compter sur lui, n'est-ce pas, pour des initiatives pour améliorer ce qu'il y a à faire.
Il y a l'auditeur, c'est Mango de Kinshasa, qui, dans la prise en charge, disait qu'on a souvent des problèmes d'accès au traitement. Il souhaitait qu'on puisse appuyer les laboratoires que nous avons pharmacinants pour qu'on puisse appliquer les médicaments sur place. Comme ça peut permettre à ceux qui sont éligibles puissent avoir accès aux soins sans beaucoup de difficultés.
Comme tout à fait du même avis, d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas raconter des histoires qui sont en cours.
C'est vrai, oui.
Mais ce qui est évident, c'est que le dossier, effectivement, Pharmakina est sur la table et il y a évidemment des contours hein, que tout le monde ne peut pas contrôler, mais sinon le dossier pharmacien est sur la table.
Et avant d'écouter les autres, la dernière question, c'est l'inquiétude de notre ami Juvenal de Lubumbashi qui cherche un appui pour un documentaire, un scénario sur la sensibilisation. Mais il met l'accent sur le comportement des séropositifs. Au niveau de PNMLS, comment l'encadrement des personnes avec le VIH est-il organisé pour éviter qu'il y ait des comportements irresponsables qui peuvent aussi provoquer la stigmatisation au niveau de la société?
Tout à fait. Je pense qu'il existe dans le pays un réseau qu'on appelle ECOPLUS, hein, s'il est informé, donc il doit savoir que ce réseau a ça comme justement, parmi ses objectifs, c'est de faire mener une vie positive. Hein, c'est vrai que c'est dommage qu'il y a parfois des ratés, hein, dans la société, ça ne manque pas, ça ne tient pas seulement à l'infection à VIH, mais l'ECOP forme les personnes infectées à mener une vie positive, pour éviter justement les contaminations d'autres personnes.
Voilà, nous avons Junior Lubumbashi, Jacques Etamatadi, Walter Etambujimai. Nous allons revenir à vous, mais aussi lire les messages et la question que Dr Pierrot pose à notre invité. Nous allons revenir à vous pour que vous puissiez commenter ces sujets. Mais ceux qui ont besoin d'intervenir dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, appelez-nous au 081-890-6315, 081-890-6315. Envoyez-nous votre SMS au 081-684-7307 et par internet pa@radiocapi.net.
Au Capi Danse, du rythme de la chaleur, des heures de musique, les sujets du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, graffiti d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capi Danse, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, méga mix de 19h à minuit.
Parole aux auditeurs.
Junior, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. On vous écoute, Junior.
Ok, moi, je veux ce que j'ai toujours constaté dans mon environnement. Dans mon environnement, dès qu'on constate que la personne a cette maladie-là, comment la personne est marginalisée, elle ne sait pas se retrouver, et souvent, nos magistrats ont peur d'annoncer à une personne qui a cette maladie. Alors, ils ont aussi la tête, je me demande pourquoi ils ont cette tête. Ils doivent le dire parce que ce ne sont pas eux qui ont donné la maladie à la personne, c'est la maladie, c'est la personne qui a contracté la maladie dans ce milieu. Mais la personne aussi, dès qu'on annonce la nouvelle, cette maladie, la personne s'emballe. J'étais dans un hôpital de mon environnement, on avait en fait une dame comme ça. La femme s'est emballée. Non, c'est pas ça, je me prends. On a essayé de la calmer la mère. Après quelques jours, on avait vu la femme avec la grossesse, elle a donné naissance, et l'enfant aussi est contaminé. Je ne sais pas, qu'est-ce que l'autre invité pourrait penser à ces gens-là qui ont le sida, le sida qui ont donné naissance, et c'est pas. D'une autre manière, d'une façon de faire contaminer pour toute la communauté. C'est ça, mon fils.
Merci beaucoup, Junior. Votre question, c'est de savoir, d'abord, vous parlez de la stigmatisation des personnes portant avec le VIH, et vous voulez savoir, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil à ces gens-là qui sont contaminés, mais qui veulent mettre au monde. Vous pensez aussi que les médecins doutent parfois pour communiquer les diagnostics. L'invité pourra commenter et vous répondre tout à l'heure. Jacques, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour l'invité. Moi, je suis tout à fait de même avis avec les sujets d'appui. Maintenant, ma question en est que, qu'est-ce que vous avez comme préoccupation concernant les médecins qui ont l'habitude de consulter des femmes enceintes? Ils voient que la femme enceinte n'est pas atteinte du sida. Mais suite à ton intérêt personnel, il veut incomber la faute à la femme en disant que la femme est atteinte du sida. Maintenant, une femme enceinte, dès qu'elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie sida, alors quelle sera la réaction de cette femme-là? Vous voyez, et aussi je voulais ajouter des femmes et des saints qui ont l'habitude de mentir derrière des femmes enceintes qui disent que non, ils sont atteintes du sida. Mais quand la femme enceinte va aller consulter notre médecin, ils diront qu'elle n'est pas atteinte. Maintenant, quelles sont les mesures prises par des gens de ces domaines, hein? Quelles sont les mesures prises concernant ces médecins-là qui mentent derrière c'est comme enceintes en disant qu'ils sont en déficit. Or, ils sont en train de bénéficier leur propre argent pour manger ou aller de l'avant avec ceux qui sont en train de faire.
Voilà ma question. Voilà, j'ai cette question pour moi. C'est très grave, hein, si on, dans une ville, un médecin puisse annoncer un faux diagnostic à un malade qui dit à une femme enceinte qu'elle est contaminée et pourtant cette femme n'est pas contaminée, mais ça c'est grave. Mais qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce qui peut être comme mesure prise pour, contre ce médecin-là? L'invité pourra nous le dire, mais si cela arrive, ça doit être vraiment grave dans une ville si quelque chose comme ça est arrivé. Jacques, merci beaucoup de m'avoir dit la question posée. Nous allons en bougement. Walter, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Radio Capi.
On vous écoute, Walter. Qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs dans la lutte contre le sida?
Ok. Moi, à mon niveau, je pense que pour atteindre les objectifs, il faut juste accélérer avec la sensibilisation.
Mm-hmm.
La majorité des gens qui sont informés du VIH-sida, ce sont les jeunes étudiants et aussi les élèves. Mais pour ce qui est des jeunes qui n'étudient pas et aussi les femmes analphabètes, en tout cas, à ce niveau-là, il y a un grand problème.
Mm-hmm.
Par exemple, je vais vous donner un exemple typique. Vous avez une femme qui amène un enfant au dispensaire. Quand elle arrive là, on trouve que c'est un cas de transfusion. Tous les dispensaires n'ont pas de matériel pour dépister avant de chercher les sangs pour transfuser, pour faire la transfusion. Vous remarquerez que on va juste trouver un monsieur là et vite on passe à la transfusion. Est-ce que ce monsieur là, on a passé d'abord par le dépistage ou bien ça se passe comme ça? Et aussi, toutes les formations que les jeunes font en matière de VIH-SIDA, ils les font comme ça et quand ils quittent là, c'est fini, ça s'arrête là. Comment arriver à atteindre toutes les couches afin de former tous les autres? Donc, les organismes internationaux n'arrivent pas à faire la suivi pour accélérer avec cette planification-là. Moi, à mon niveau, je vais juste suggérer que quand il y a par exemple une formation de faire éducateur, après cette formation-là, que les organismes puissent faire la suivi afin que ces informations-là puissent atteindre toutes les couches.
Mm-hmm.
Ah, c'est ce que je trouve, moi, à mon niveau.
Merci, Walter. Vous m'excusez bien. Vous avez parlé de péréducateurs. Vous souhaitez qu'il y ait un suivi hein, après la formation, mais aussi le problème de transfusion à haut risque. Hein, quand on a un enfant en urgence, sans anémique, et puis dans aux alentours, il n'y a pas un centre, il n'y a pas de matériel pour dépister. On a toujours tendance à recourir au plus offrant, à celui qui se présente, au membre de famille, pour pouvoir transfuser. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Merci beaucoup, Walter. Papy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Est-ce qu'il arrive des fois à Kananga que vous puissiez voir les gens engagés vraiment sur le terrain dans la sensibilisation, dans la lutte contre le VIH-SIDA?
Oui, moi personnellement, j'ai travaillé dans ce domaine-là avec la chèche.
Mm-hmm.
Mais vous remarquerez que sur le terrain, il y a d'autres réalités qui surprennent.
Mm-hmm.
Parce que les gens ne sont pas vraiment sensibilisés, ils ne sont pas informés concernant le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
On a travaillé, c'était en distribuant des préservatifs, mais concernant le port des préservatifs, il y a des gens qui n'ont pas assez d'informations.
Mm-hmm.
Vous contactez quelqu'un, il y a des gens qui disent que non, voilà, le préservatif en soi transmet aussi d'autres maladies comme le cancer et consorts. J'ai toujours compris qu'il n'y a pas vraiment la sensibilisation. C'est pourquoi je demande un peu à l'État qu'il puisse un peu, dans ce domaine-là, accélérer avec la sensibilisation.
Mm-hmm. Merci, Capu. Vous avez parlé avec l'ACES et l'Association de santé familiale dans la distribution de préservatifs, mais vous pensez qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Et là aussi, il fallait rejoindre Alter de Mbujima qui a pensé qu'il faut plus la sensibiliser aussi dans les milieux des gens qui n'ont pas pu fréquenter l'école, parce que là, ils sont assez aussi, n'est pas concernés par la sensibilisation. Merci beaucoup, Papy. Nous avons Paul qui est à l'ICASI. Bonjour, Paul.
Oui, monsieur.
Paul, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Paul.
Oui, Paul est de l'ICASI. Moi, je suis indicatif, je constate qu'il y a des sensibilisations de la part de la vision mondiale.
Mm-hmm.
Et il y a un problème que tous les visiteurs vont parvenir à se lever à vos antennes. Mais moi, je voulais signaler ceci. Le problème ne se pose pas au niveau de sensibilisation. on peut faire une sensibilisation sans avoir y passer les messages. Le problème réside au niveau des messages que les phénomènes peuvent faire passer au sein de la population.
Mm-hmm.
Et comment parvenir à faire passer ce message? Écrire aux gens, à des chaînes de radio, par exemple, ici à Nicassie, il y a une chaîne de la place qui réduit des pièces de théâtre, des pièces sous pour sensibiliser sur la population.
Mm-hmm.
Mais on constate que le message ne parvient pas surtout à la population. Quant à ce message-là, nous voyons que la population s'est laissée comme ça à importer à des maladies qui parviennent comme ça.
Mmh. Merci beaucoup, Paul Delicassi. Le problème n'est pas au niveau de la sensibilisation, mais vous pensez plus sur les contenus du message et comment le message est véhiculé, qui est vraiment un vrai problème pour que les gens puissent s'intéresser hein, à ça. Merci beaucoup, Paul. Nous allons terminer avec vous, Alain. Alain, vous êtes à c'est un bon bas, je crois bien. Alain, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes en débat, c'est ça?
Oui. Bonjour, monsieur le journaliste.
Mm-hmm.
Je suis toujours à la cité d'Ndemba.
Au Kassai occidental, hein? Oui, Alain Ndemba, c'est au Kassai occidental, c'est ça?
Oui, oui, c'est okay. Toujours au Kassai occidental.
On vous écoute maintenant, oui, allez-y. Oui, Alain, vous avez tendance, vous écoutez en fait les médias à travers votre... Oui, Alain, s'il vous plaît, vous écoutez la radio à travers votre poste récepteur, ça va permettre qu'on puisse mieux communiquer. Arrêtez carrément votre poste récepteur, nous allons converser à travers votre téléphone portable, hein, comme ça, ça va nous permettre d'aller rapidement sans problème. Vous êtes en ligne, Alain?
Oui, je suis.
On a des petits soucis, la réalisation pourra... vous aider, comment intervenir, oui. Prenons d'abord Sébastien qui est à Congolo, le temps que la réalisation explique à Alain comment il doit intervenir en arrêtant bien sûr les postes récepteurs. Sébastien, nous allons vous donner la parole, vous êtes à Congolo dans le Katanga. Bonjour Sébastien.
Bonjour monsieur le journaliste Sébastien Guy.
Mmh.
Ici à Congolo, beaucoup d'ONG sensibilisent la population pour comment éviter le VIH-SIDA.
Mmh.
Ce travail, même si je fais des Congolos, mon premier postard en Koyvampanga en a parlé aujourd'hui aux jeunes venus nombreux prendre part à la messe à l'occasion de la journée fête de Marie Clémentine Anouari Kenengapeta.
Mmh.
Et là, c'était fait et sorti les jeunes à bien se comporter et d'éviter le vagabondage sexuel.
Mmh.
Même à travers les cours d'éducation sexuelle, d'éducation à la vie, pardon, hein, on met la sympathie sur la liste contre le sida. Donc, il s'avère que le meilleur moyen d'éviter le sida, c'est l'abstention.
Mmh.
Conséquence au Congolo, les cas de VIH-SIDA sont à compter vous les doigts dans nos quartiers.
Voilà, merci beaucoup de ces témoignages de Sébastien de Congolo, qui a vraiment un engagement dans la lutte contre le sida, la sensibilisation, le fait qu'on a parlé tout à l'heure dans une messe. Merci beaucoup de ces témoignages, il faudrait continuer sur cette lancée. Nous allons revenir à vous, Alain, maintenant ça va, votre ligne, vous êtes en ligne, Alain.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, je vous ai demandé de pouvoir écouter l'émission à travers votre téléphone portable, comme ça permet que vous puissiez vous exprimer sans beaucoup de difficultés. On vous écoute, Alain.
Oui. J'avais une préoccupation que je dois poser à notre invité du jour.
Allez-y.
Moi, je demande ceci. Je sais que l'organisme de l'UNICEF qui a organisé la formation des pères éducateurs aux petits-enfants, c'est-à-dire aux mineurs. Donc, après la formation, ces petits-enfants qui ont été formés, ils viennent de plus en plus les éducateurs, les physiques, parce que j'ai vu les enfants qui ont été formés comme les pères éducateurs, qui commencent à enseigner les filles qui étaient appelées aussi les mères éducatrices. En tout cas, je ne sais pas si notre gouvernement qui permet à quelques organismes de pouvoir donner le matériel aux enfants qui ne savaient pas à ce que signifie le rapport sexuel. Et ça devient comme si ce sont ces enfants-là qui l'ont appris par l'organisme et qui commencent à s'utiliser au rapport sexuel. Comment la lutte contre les sida auront à prendre.
Voilà. Et ça, vous dites, on comprend, c'est une association de jeunes, mais qui malheureusement les copinages, le fait qu'ils se retrouvent dans l'association de, comme pour éducateurs formés pour lutter contre le VIH, ça crée une habitude et dès là, ils se retrouvent dans un comportement irresponsable et il y a même des conséquences de grossesse et vous avez peur que si cela continue, il sera difficile de pouvoir lutter efficacement contre le VIH. Nous allons lire le message, c'est la question des docteurs Pierrot qui est à Ariwar en province orientale, dit ceci, qui prévoit les PNMLS pour l'Ituri dans la lutte contre le VIH-SIDA. Parce que la plupart des personnes vivant avec le VIH à Ariwar en province orientale, ils sont obligés de traverser la frontière pour aller se faire soigner en Ouganda. Ngalula Mamita, qui est à Gemena, dit ceci, en RDC, je trouve que les informations publiées par les autorités ne reflètent pas la réalité. Les enquêtes sont souvent erronées. Le PNMLS n'est pas présent dans beaucoup de villes. Nous avons l'impression que ceux qui financent ou gèrent les projets donnent de fonds aux ONG qui acceptent les opérations retour. À Babouanda, par exemple, le PNMLS a dépisté près de 304 PVV éligibles, mais le PNMLS n'a pris en charge que 160. Le PNMLS dit ne pas avoir assez de moyens. Aujourd'hui, nous, les PVV, nous avons organisé une marche pour sensibiliser, mais la plupart des hôpitaux n'ont pas de matériel de dépistage ni de protection. Selon ce message, Ngalula, qui est à Mamita, qui est à Gemena, et les membres de l'association des PVV, voilà les questions concrètes posées à notre invité. Freddy Kelenda de Mbujimayi dit ceci, il faut combien de temps si vous êtes contaminé par le virus du VIH pour que les premiers signes de la maladie se manifestent? Vous allez répondre à cette préoccupation, professeur, et nous allons prendre le dernier groupe d'auditeurs parce qu'on tend déjà vers la fin de l'émission. Nous allons vous donner la parole pour réagir un peu en bloc hein, à toutes les préoccupations des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on vous écoute. Hein, c'est de la sensibilisation à la prise en charge des PVV, les difficultés à aller du côté des Guimena, à Riwara. Et aussi, ces problèmes de comment éviter les dérapages dans les milieux des jeunes qui se réunissent pour lutter contre le VIH. Un peu rapidement, pour qu'on écoute les deux derniers auditeurs et qu'on puisse vous redonner la parole pour conclure.
Oui, merci. Je pense que l'exemple de Congolo doit pouvoir servir à tout le monde. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je sais que, disons, il y a une activité assez intense du côté du Congolo et cela date déjà de plusieurs années. La sensibilisation ne doit pas être quelque chose qui se fait pendant une période depuis qu'il s'arrête. Sinon, les résultats vont s'exciter avec le temps. Donc, il faut, même pour les jeunes gens qui sont formés comme pères éducateurs, que cette sensibilisation continue. Donc, il n'y a que dans ces conditions-là que les gens peuvent rester responsables de leur situation. Pour ce qui est des diagnostics des médecins, je pense que là, on est au-delà hein, de ce qui est concevable. Hein, le médecin, quand il termine, il prête serment. Et ce serment le lie notamment à un comportement déontologique qui ne devrait pas lui permettre de faire ce qu'il fait. Donc, des choses comme ça devraient être dénoncées. C'est ça la part de la société civile. Il doit pouvoir dénoncer à qui de droit. Dans tous les coins, dans tout le pays, nous avons un conseil de l'ordre de médecins qui est représenté. Et donc, il est tout à fait logique d'aller à ce côté-là pour essayer de résoudre le problème. Alors, par rapport aux autres collègues de la province orientale, je pense que notre ami, soit Pierre, n'est pas au courant de la situation. Nous avons été effectivement saisis avec le PNLS, la situation des personnes par rapport au mouvement entre l'Ouganda et notre pays. Et je pense que les dispositions ont déjà été prises hein, pour pallier à cette situation.
Et leur permettre de suivre les traitements.
Suivre les traitements, c'est déjà fait. Hein, je pense que, en gros, disons, nous retenons que la sensibilisation reste ce qui est accessible pour nous tous. Hein, cette sensibilisation ne doit pas être l'objet de, comment dirais-je, l'affaire des ONG internationales. C'est tout le monde qui doit participer à la sensibilisation.
Mais parce qu'il y a cette question de Gemena par rapport à la prise en charge des PVV, on a dépisté 304 personnes, c'est les 160 qui sont prises en charge. Il y a le problème des matériels qui se posent, il y a le problème des formations qu'il faut dépister. Mais à ce niveau-là, comment vous organisez-vous pour permettre à ce que beaucoup de centres urbains puissent avoir le matériel de dépistage et oui. aussi la prise en charge, oui.
C'est ça. C'est de rester en contact avec les structures. Nous avons le PNLS qui est représenté partout dans le pays. Et les médecins savent qu'ils peuvent s'adresser
voilà.
au PNLS, n'est-ce pas, pour pouvoir résoudre ce genre de problème.
Oui, nous allons écouter Kapesar de Kinshasa, Jacques Béharou et Polybe de Kindou. Messieurs, comme on tend vers la fin de l'émission, 1 minute et demie à chacun, ça vous permet de pouvoir donner votre contribution sur ce sujet. On commence avec vous, Kapesar, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, on vous écoute un peu rapidement, vous êtes ici à Kinshasa. Quel est votre niveau de contribution dans cette émission?
Oui, exactement, la marge n'est pas donc très important. Je voulais vous dire que vous faites parler tout ce que on doit faire avec le conseil de la seule cause, je vous dis très bien qu'il faut faire un programme. Il faut lutter contre les péchés. C'est ça, il faut noter ça, lutter contre les péchés. Donc, si vous avez un programme de lutter contre les péchés, je dirais que nous avons tous les moyens. J'ai déjà même écrit au phénomène, c'est tout qu'on sort. Ils ne veulent pas donc venir. Ils ne veulent pas venir. Alors, c'est pourquoi que. J'ai dit que les péchés, tous, luttons contre les péchés et haïr le mal qui nous habite pour éradiquer le virus SIDA. Vous voyez, il y a tant de choses qu'on a déjà données, mais ils ne veulent pas vous l'écouter. C'est ça la seule chose.
Voilà, ça peut faire, on va suivre, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, encore deux personnes et puis quelques messages arrivent. Mais en bref, vous dites, votre souci, c'est qu'il faut lutter contre le péché, mais vous avez écrit au PNLS pour que les gens viennent voir ce que vous faites et puissent vous associer et lutter contre le péché, c'est ça ce que vous dites. Merci beaucoup, Capessard. Nous avons Jacques qui est à Arou. Bonjour, Jacques. Jacques, vous êtes en ligne, bonjour.
Bon, j'aimerais seulement donner une piste de solution concernant l'objectif qu'on a fixé pour 2015.
Allez-y rapidement.
Ouais, bon, moi je trouve en fait que les dépistages volontaires ont déjà échoué. Parce que jusque-là, il y a des personnes qui vivent avec le VIH-SIDA. Mais qui ne savent pas et qui continuent à propager la maladie.
Mais là, Jacques, la même chose à faire, c'est de pouvoir les amener à se faire dépister.
Oui, bon, c'est-à-dire volontairement, ils n'acceptent pas. Moi, je voudrais dire peut-être au gouvernement, cette responsabilité comme au gouvernement, qu'il mette d'abord un grand budget avec des matériels de dépistage dans tous les territoires et même toutes les collectivités. Ensuite, de contraindre les gens
à aller
se dépister. Si vous avez la maladie, on vous oriente automatiquement pour les soins.
Merci.
Et si vous n'en avez pas, donc c'est ça.
Merci Jacques. Vous pensez qu'il faut un dépistage par contrainte ou bien un dépistage volontaire? Nous allons terminer avec vous, Pauline. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur.
En une minute, Pauline, qu'est-ce que vous proposez?
Bon, je ne propose rien, mais j'ai une réflexion. Il n'y a pas moyen de lutter contre le sida à l'heure actuelle parce que tout ce que nous voyons, ce ne sont que des caravanes motorisées. Je n'ai jamais assisté à une séance de sensibilisation de lutte contre le sida à Kindou. Et puis, ce que j'ai encore remarqué, c'est que le sida est une maladie de pauvreté. Donc, il faudrait, pour lutter contre le sida, qu'au moins 5 chefs d'État, mère du sida, là,
comme ça, ils vont prendre conscience.
Et là, on prendra conscience. De deux, il y a aussi un problème lié à la démographie. Vous savez que nous sommes devenus le mois passé plus de 7 milliards d'âmes. Bien peut s'arranger pour essayer de réduire.
Réduit
le nombre d'hommes.
Merci beaucoup, Philippe. Vous avez quand même dit qu'il y a plus de caravanes motorisées que le message de sensibilisation. Mais pour vous, vous pensez que s'il y a des grands, les chefs d'État, 5 qui meurent du sida, comme ça, ils pourront prendre conscience. Nous allons lire rapidement ce message de Michel Platini de Lubumbashi. Pour lutter contre le VIH-SIDA, il faut toujours utiliser le préservatif lors d'une occasion de relations sexuelles non ou sûres ou carrément s'abstenir. Nanayongo de Kisangani, je voudrais avoir des explications sur la transmission du VIH-SIDA par des objets tranchants. Ensuite, que l'invité nous dise ce que le programme fait pour accroître le nombre de bénéficiaires des ARV en RDC.
même inquiétude de Fémi à Yves, qui est Justin, qui est à Arou. Et des mags à débouter, vous dites ceci, chez nous, le dépistage n'est pas gratuit. À votre avis, combien de fois faut-il passer au dépistage par an? Docteur Martin de Béni dit ceci, je pense que l'on doit faire un grand effort pour informer la population, surtout les personnes analphabètes, avec le message simple et clair. Et enfin, je mets délicatie, dit ceci, je prie aux sensibilisateurs de se sacrifier en allant dans les milieux les plus reculés du pays. Nous avons 2 minutes, professeur, il est 20 à peine pour terminer cette émission. On a suivi les auditeurs. Les questions sont presque revenues. Elles sont les mêmes. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette journée de lutte contre le sida?
Bien, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que, en fait, les stratégies qui, jusqu'à présent, sont utilisées en matière de prévention sont des stratégies qui restent valables.
Mm-hmm.
Hein, il est évident que si on prend une stratégie isolée, on risque de ne pas avoir les résultats attendus.
Mmh.
Par contre, si on associe, on cherche la synergie de plusieurs stratégies, on a plus de chances d'être protégé contre le VIH-SIDA.
Mmh.
Donc, en commençant par plus que des stratégies, je vois par exemple, à Congo, nous avons fait allusion à ça, tout cela doit être mis dans le contexte. Donc, il y a aussi la part de chaque individu qui doit participer à la lutte contre le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
C'est vrai que le gouvernement a sa part, mais nous devons aussi nous sentir responsables de ce qui nous arrive. Et donc, partant de là, nous devons avoir un comportement responsable.
Merci.
Pour le reste, il faut se confier au service médical pour les informations utiles en matière de santé.
Merci beaucoup, professeur Lévin Capin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les coordonnateurs national du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir fait confiance pendant une heure et partager les informations sur la lutte contre le sida en ces jours.
Allô? 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 Oui. Il ne répond pas.
On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine et nous allons parler des personnes vivant avec handicap. C'est en marge de la célébration de la journée nationale et des personnes vivant avec handicap. Ça sera célébré le 3 décembre, mais nous en parlons avec vous demain vendredi. Une seule question, que proposez-vous pour permettre aux personnes vivant avec handicap d'avoir un accès facile aux différents services à la société? Vous pouvez déjà vous inscrire à pa@radiotapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Justine Nanga, Claudie Chouboula pour la réalisation de cette émission. Également de part Jean-Claude Michel, à Nicole Ndakala, superviseur Florent Lemay. Je vous dis au revoir et surtout bonne compagnie, bonne journée en compagnie de Radio Capi.